Chapitre 2. Sophie Arnoux est née le 14 février 1744, rue Béthézy, dans une des chambres de l'ancien hôtel de Ponthieu. Dans cette même chambre, l'amiral Coligny avait été assassiné. La belle duchesse de Montbazon, la tante aimée de M. de Rancé, y était morte. Vanloo y avait eu son atelier. Les maisons, aussi, ont leur destinée. Plus tard, au souvenir de cette chambre historique, à laquelle sa naissance donnait un titre de plus, Sophie Arnoux disait « Je suis venue au monde par une porte célèbre ». Les parents de Sophie, de braves bourgeois des environs de Blois, étaient fixés à Paris depuis quelques années. Leur famille augmentant, il avait fallu songer à augmenter le revenu, et ils avaient transformé en hôtel garni l'ancien hôtel de Ponthieu. Chez eux, on trouvait bon visage et bon gîte. Aussi, leur maison était-elle des plus achalandées. La noblesse de province y descendait. Dans les mansardes, des poètes et des philosophes, oiseaux de passage, venaient souvent chercher asile. Tout ce monde, allant et venant, faisait à Madame Arnoux une société flottante, un salon de hasard chaque jour renouvelé. Le soir, les hôtes se réunissaient, on causait de tout et elle écoutait. Ainsi, elle prit les façons de la bonne compagnie et se frotta de bel esprit. Elle se créa des relations et connut des personnes qui connaissaient des gens de la cour. La petite Sophie grandit sur les genoux des hôtes de sa mère qui la caressait et lui donnait des bonbons. On la choyait plus que toutes ses sœurs parce que déjà elle était jolie à miracle et que son babil enfantin surprenait et amusait. Sa mère aussi la gâtait et l'élevait comme la fille aînée d'une princesse. Peut-être, la voyant si gentille et si spirituelle, espérait-elle qu'un jour elle deviendrait une grande dame, une duchesse pour le moins. Elle le devint en effet, mais de la main gauche. Madame Arnoux n'avait pas prévu cela. On ne s'avise jamais de tout. À 6 ans, la petite fille était une dame de la cour en miniature. Elle s'essayait aux grands airs et aux petites mines, et chacun de flatter cette coquetterie naissante. On la parait, on la tiffait, on la pomponnait, ni plus ni moins qu'une poupée, à essayer les modes nouvelles, les robes et les coiffures. Puis, afin de compléter cette éducation qui devait porter de si heureux fruits, on lui donna des maîtres et des professeurs de toutes sortes. Et c'était plaisir, rien n'était perdu pour cette précoce intelligence en éveil, elle apprenait à étonner ses maîtres. À 10 ans, elle dansait comme Mademoiselle Prévost, elle parlait italien, jouait fort joliment du clavecin et chantait à ravir. Enfin, c'était un vrai prodige. Mais un prodige que nul ne connaît, que personne n'admire, à quoi bon ? Madame Arnoux se lassa d'être seule avec ses hôtes, à s'extasier devant sa fille, son orgueil maternel rêvait d'autres satisfactions. Elle résolut de la produire dans le monde. Sophie avait surtout et avant tout une voix charmante, fraîche, exquise, déliée. On la faisait chanter partout où sa mère la conduisait. Elle chanta dans quelques salons d'abord, dans 2 ou 3 couvents au jour de fête, puis à Saint-Denis, où elle obtint un véritable succès. Mais l'église devait la conduire tout droit à l'opéra. Ce n'était pas précisément le chemin le plus long. Il était fort à la mode, alors, parmi les grandes dames, de faire pénitence pendant le carême. Après les folies du carnaval, rien ne pouvait être plus salutaire pour l'âme et surtout pour le teint. Donc, le mardi gras passé, on courait s'enfermer dans quelque appartement commode et discret d'un des 1000 couvents de Paris. Dans ces saintes et paisibles demeures, on priait, on se reposait. On se couchait tôt, on se levait tard, et les roses, quand venait Pâques, refleurissaient sur les joues pâlies par le plaisir. Dans le jour, pour charmer les longues heures, on avait les visites, les collations au parloir et encore les offices. Et certes, ces offices n'étaient pas à dédaigner. Ils n'avaient rien d'austère ni de monacal. Les vieilles religieuses, en ces jours, interrompaient leur monotone psalmodie et ne nasillaient plus les répons. On entendait les voix les plus fraîches et les plus belles de l'opéra et tout Paris d'accourir. Les couvents se disputaient Géliotte, Mademoiselle Lemoore, Chassé, Mademoiselle de Fel, Mademoiselle Chevalier et Anna Tonelli. C'est ainsi que, pendant le carême de 1755, Madame la princesse de Modène, femme séparée du prince de Conti, se trouvait au Val-de-Grâce. Un jour, le mercredi saint, la princesse remarqua une voix délicieuse qui chantait une leçon des ténèbres. L'office terminé, elle voulut voir la virtuose. On lui présenta Sophie Arnoux. Une religieuse, la plus belle voix du couvent, était tombée subitement malade. On était dans le plus grand embarras lorsque Sophie s'offrit pour remplacer la religieuse, on accepta en tremblant. Mais elle, avec un aplomb merveilleux, elle dit son solo dans cette église en vogue, devant la plus belle et la plus noble compagnie de la ville et de la cour. Elle obtint un succès fou, merveilleux, inespéré. Lorsqu'elle eut terminé, il s'éleva comme un murmure d'enchantement et quelques-unes, en dépit de la majesté du lieu, applaudirent dans leur ravissement. Cette année-là, le Val-de-Grâce l'emporta, même sur Longchamp. Le lendemain, Sophie chanta le Miséréré de la Lande avec tant d'âme qu'elle arracha des larmes à tous ceux qui l'entendirent. Il ne fut plus question que d'elle dans Paris, et le vendredi saint, 300 carrosses stationnaient dès le matin aux portes de l'église. Un hasard venait de décider du sort de Sophie Arnoux. Du premier moment, Madame de Modène s'enthousiasma de la jeune chanteuse. Elle s'ennuyait, cette princesse aventureuse, cette femme sans mari. Elle n'avait pas d'amant peut-être ce jour-là, cette distraction arrivait à propos. Elle déclara que Sophie ne la quitterait plus et que, désormais, elle se chargeait de sa fortune. Voilà donc Sophie Arnoux à l'hôtel de Conti, favorite de la princesse, aimée, admirée, adulée. Toute sa famille était dans la joie d'une si haute destinée. Au moins, elle dut à cette protection de perfectionner son admirable talent. Elle eut des maîtres qui la firent travailler sérieusement, Géliot lui donna quelques leçons et ne dédaigna pas de chanter avec elle. Cependant, Madame de Modène se parait de sa merveille. Elle avait découvert une perle rare, elle allait partout, la montrant et l'exaltant si bien qu'un jour, Sophie se trouva à Versailles, à la cour, en présence de la reine Marie Leczinska. On lui dit de chanter, et cette voix mélodieuse ravit la reine, qui demanda à la jeune fille pour sa musique. Après la reine de nom, la reine de fête. Madame de Pompadour, elle aussi, voulut connaître la protégée de Madame de Modène. Sophie, que la reine n'avait pas intimidée, ne se troubla pas en présence de la favorite. Sans se faire prier, elle s'assit à un clavecin et chanta comme un ange. La marquise l'examinait pendant ce temps. À voir ses yeux parlants, cette bouche mutine et rieuse, cette physionomie spirituelle, toute cette jeunesse et toute cette beauté, à entendre cette voix enchanteresse, elle prit peur. Elle s'approcha de Madame Arnoux et dit à voix basse « Si vous ne voulez pas faire présent de votre fille au roi, lui dit-elle, que jamais elle ne fasse partie de la musique de chambre de la reine. » Puis, faisant asseoir Sophie près d'elle, immense faveur, la marquise daigna la complimenter. Elle la considéra longtemps encore, puis murmura « Il y a là de quoi faire une princesse !» Jean-Antoinette Poisson d'Étiol s'y connaissait. Cette visite à Versailles ouvrit les yeux de Madame Arnoux. Elle réfléchit et fut épouvantée. Trop tard, Sophie ne tarda pas à être nommée demoiselle de la musique de la reine avec 100 louis d'appointement. Elle reçut le brevet avec une gratification. Puis une lettre de cachet arriva. De par le roi, la jeune fille était attachée à la musique de Sa Majesté et à l'Académie royale de musique. À la seule idée de voir un jour sa fille à l'opéra, Madame Arnoux pleura. Elle maudissait sa folie d'avoir voulu faire sortir sa fille de sa condition. La famille résolut de résister. Elle résista en effet assez longtemps pour que la future Armide pût prendre encore quelques leçons de l'illustre Clairon et de Mademoiselle de Fel. Cependant, l'ordre du roi était précis. Francœur, le directeur de l'Académie royale de musique, venait le rappeler tous les jours. Il suivait avec l'intérêt d'un spéculateur les progrès de sa nouvelle sujette. Il disait qu'en vérité, ce serait grand dommage de priver le roi et le public d'une actrice sublime, d'un merveilleux talent. La princesse de Modène venait aussi. Elle s'intéressait à Sophie comme à la chose lui appartenant. La première, elle avait dit que Sophie serait une grande comédienne, il lui tardait de voir le public confirmer son arrêt. Elle combattait les scrupules bourgeois de la famille Arnoux. « On n'est pas damné pour entrer à l'opéra. Bon à la Comédie-Française dont les acteurs sont excommuniés. Mais l'opéra est bien avec l'Église qui lui emprunte des artistes pour les grandes solennités et les concerts spirituels. » Sophie, il faut le dire, n'avait aucune des répugnances de ses parents. Elle ne voulait point désobéir à sa gracieuse majesté le roi de France. Elle refusa de fuir comme sa mère le lui proposait. On lui offrait un asile sûr dans un couvent, elle préférait le théâtre. Les premiers bravos du Val-de-Grâce avaient exalté sa jeune imagination. Pour elle, l'opéra, avec ses pompes de chaque soir, ses feux, ses merveilles, ses féeries, ses harmonies, ses splendeurs, c'était l'avenir, la gloire, la fortune, le bonheur. Enfin, après bien des pleurs, des hésitations, des démarches inutiles, des promesses 20 fois données et 20 fois retirées, il fut décidé qu'on se soumettrait. Le 17 décembre 1757, Sophie Arnoux débutait à l'opéra. Elle n'avait pas encore 14 ans. De cette première soirée, son succès, un succès immense, prodigieux, fut assuré. Elle parut et elle fut acclamée. De toutes parts éclatèrent ses bravos qui, pendant 20 ans, lui furent si fidèles. Jamais elle ne fut plus jolie, plus gracieuse, plus touchante, plus passionnée. Elle était vêtue d'une robe lilas brodée d'argent, sa coiffure était un chef-d'œuvre. Sans doute, l'émotion fit battre son cœur, mais on ne s'en aperçut pas. Elle promena sur la salle un œil tranquille. Elle n'eut ni timidité ni gaucherie, ni même aucun tremblement dans la voix. Et les spectateurs ne savaient trop ce qu'ils devaient admirer le plus, de la beauté de sa voix ou de la perfection de son jeu. Elle chanta comme jamais on n'avait chanté, elle joua comme Clairon elle-même. C'en était fait, elle était célèbre, elle était l'idole de Paris. Chaque représentation ajouta à son triomphe, c'était un délire, une folie. Journaux, gazettes, correspondances, mémoires, n'ont pour l'astre qui se lève que des éloges et des encouragements. C'est un concert unanime. On vante son intelligence, sa beauté, sa grâce, son jeu naturel. Elle est une nouvelle expression de l'art, elle est la perfection même. Modèle en débutant, dit le Mercure de France, elle ranime la scène lyrique. Il est heureux qu'elle ait risqué ce que lui inspirait la nature avant que d'être intimidée par tous les petits préjugés de l'art. Et encore, les mémoires ne sont qu'un écho affaibli de l'enthousiasme d'un public transporté. Joue-t-elle ? Longtemps avant l'heure, une foule impatiente assiège le théâtre, on se bat au guichet. Et Fréronde s'écriait douloureusement : « Je doute qu'on se donne tant de peine pour entrer au paradis. »